Divers aspects de la pensée contemporaine. Aujourd'hui, la libre pensée. From the dusty mesa, a looming shadow grows, hidden in the branches of the poison creosote. Chères auditrices, chers auditeurs, bonjour. Au micro, Christophe Bitteau, vice-président de La Libre Pensée. J'ai le plaisir aujourd'hui de recevoir Pierre Polygone, rédacteur en chef adjoint de la revue littéraire Zone Critique. Bonjour Pierre.
Bonjour.
Et Marie Gay, membre du comité de rédaction. Bonjour Marie.
Bonjour Christophe.
Pour une émission dont le sujet sera littérature, cinéma et crise sociale. Le thème de la crise sociale est devenu central dans la littérature et le cinéma. Aujourd'hui, la libre pensée qui entend œuvrer à l'émancipation de l'homme dans tous les domaines, dont l'action est à la fois militante et culturelle, ne pouvait que s'intéresser à cette rencontre entre l'art et la question sociale. Le numéro 1 de la revue papier Zone Critique est entièrement consacré à ce thème. Le dialogue entre Zone Critique et la libre pensée s'instaure donc tout à fait naturellement. Ma première question, pouvez-vous nous présenter rapidement Zone Critique, son histoire, son but, son actualité?
Alors Zone Critique, c'est d'abord une revue d'actualité culturelle qui existe sous la forme d'un site internet lancé il y a maintenant 7 ans par Sébastien Reynaud et que j'ai l'honneur de seconder depuis 6 ans. C'est aussi une revue papier depuis un an. Zone Critique, c'est une revue qui traite de la culture en général, mais de la littérature en particulier. En fait, on est parti d'un constat. D'une part, on a la critique universitaire, qui a le mérite d'être précise, mais c'est une critique de spécialiste, pour les spécialistes. Et de l'autre, on a une critique journalistique, qui parfois, malheureusement, peut se résumer à la promotion médiatique d'un livre à la mode. Nous, notre ambition, c'est de trouver un juste milieu. On a une approche des textes qui se veut être, précise, rigoureuse, mais également sensible et intime. Notre approche, elle n'est pas révolutionnaire, mais elle provient du désir de s'exprimer sur ce qui importe pour nous. Cette revue, elle a aussi une forme évolutive, elle a grandi avec nous. On l'a lancée au départ, on était étudiants en littérature, et maintenant, nous sommes enseignants, professeurs. On a voulu, pour notre depuis un an, lancer une revue papier, parce qu'on a tenu au choix du papier. Ça nous semblait important. Comme ça, c'est une façon d'inscrire notre projet dans une temporalité plus longue, peut-être moins sujet à l'immédiateté que le site internet. D'où notre slogan, rendre la culture vivante, pour reprendre cette formule d'Artaud extrait des conférences révolutionnaires, puisque c'est notre objectif, c'est quand même de faire sentir notre passion pour le texte et pour les images. Alors, Zone Critique, la revue papier, c'est aussi, en fait, une communauté de personnes de formations intellectuelles diverses, et c'est un fonctionnement collaboratif. On est donc 6 à avoir travaillé à parts égales sur ce numéro. Donc il y a Sébastien Reynaud, Lise Lagnieps, Marie Gay, Pierre Chardot, Louise Grana et moi-même.
Alors, pourquoi un premier numéro sur la crise sociale?
Alors, pour répondre à cette question, je vais d'abord faire un rappel. L'identité de Zone Critique, c'est vraiment la littérature et le cinéma contemporain, puisque nous sommes persuadés que l'art, la littérature ont une valeur heuristique, que ce sont de véritables outils de connaissance du réel. D'où le choix d'un thème contemporain. En effet, il y a ce double constat. La crise sociale est un thème d'actualité vive, c'est une question omniprésente, presque comme si être en état de crise était une norme aujourd'hui, donc c'est un sujet brûlant. Et le second constat que nous avons fait, c'est que de fait, il y a une production littéraire abondante autour de la crise sociale, et un des livres qui nous a donné envie d'écrire ce numéro, c'est « Leurs enfants après eux », écrit par Nicolas Mathieu et qui a eu le prix Goncourt en 2017. Alors, notre revue n'a pas de but d'exhaustivité sur ce sujet, mais nous voulons voir ce qu'apporte la littérature aux politiques et également comment les enjeux esthétiques constituent également des enjeux politiques. Le numéro se structure autour de dossiers thématiques où nous observons des lignes de force qui rassemblent des auteurs, mais nous avons également des portraits d'écrivains plus ou moins médiatiques, des entretiens où on entend la voix d'auteurs comme Marion Messina, François Beaune, François Bégaudeau, une rubrique historique, donc là nous faisons le pari que les œuvres canoniques qui traitent de la crise comme Les Misérables, Les Raisins de la Colère atteignent un universel dans le traitement de ces questions. Et nous avons également une rubrique cinéma qui répond aux mêmes exigences.
Alors, c'est effectivement Zone Critique, une revue littéraire, mais tu l'évoques Marie, le cinéma y a également sa place. Donc le cinéma a-t-il un rôle particulier dans la peinture de cette crise sociale que vous évoquez ?
Alors oui, puisque en fait, il s'avère qu'on est parti du constat suivant. Au cinéma, la crise semble ne pas avoir de limite géographique. Ainsi, elle passe par l'Angleterre de Ken Loach, à la Corée de Bong Joon-ho, ou par la Belgique des frères Dardenne. La crise sociale, au cinéma, elle crée de nouveaux champs d'exploration du visuel. Elle se présente parfois donc comme des documentaires militants. On peut penser à Merci Patron de François Ruffin, au plus près du réel donc, ou au contraire, comme des films de science-fiction étrangement réalistes. Alors, à titre d'exemple, on a pu constater donc le succès des films de Bong Joon-ho, qui traitent des différents types de crises. D'une part, la crise sociale, dans Parasite, qui a eu la Palme d'Or au Festival de Cannes il y a 2 ans maintenant, mais aussi environnementale, dans Snowpiercer, ou même, et ça résonne encore plus tragiquement aujourd'hui, sanitaire, dans The Host. Donc, notre vue, elle propose également de s'interroger sur comment le cinéma s'empare de ce thème de la crise. Et en fait, on essaie donc d'aborder des manifestations de cette crise de façon très diverse, que ce soit dans les documentaires militants ou même dans des films de science-fiction qui, a priori, sont très éloignés, comme la saga Alien.
Alors, l'art en général, et la littérature en particulier, revenons-y quand même, peuvent-ils, doivent-ils même, dirais-je, avoir un rôle social ou un rôle politique ?
Alors, autant le dire clairement, nous, on n'a pas adopté le point de vue de Sartre, qui affirme de façon péremptoire dans Qu'est-ce que la littérature ? Que toute parole littéraire est nécessairement engagée. Moi, en tant qu'étudiant, il se trouve que j'ai été choqué par cette formule polémique de Sartre, qui avait dit la chose suivante. Je tiens pour Flaubert responsable de la répression qui suit la Commune, car il n'a pas écrit une ligne pour l'en empêcher. Moi, je trouve ça, comment dire, un peu violent. Nous, ce qu'on pense plutôt, c'est que chaque œuvre littéraire, elle s'inscrit forcément dans un contexte politique-social déterminé, dans une situation, pour reprendre un mot sartrien. Dans un article, au sein de la revue, Sébastien Reynaud a opéré une distinction suivante entre d'une part le roman militant et de l'autre le roman politique. Alors le roman militant, c'est celui qui se réduirait à une démonstration d'une thèse et qui perdrait de sa valeur esthétique. Tandis que le roman politique, lui, il fait pas du militantisme une finalité, mais au contraire, il tente de prendre en charge la complexité du réel. Pour le roman militant, on a l'impression qu'il assume un manichéisme, c'est-à-dire que les personnages sont soit du côté de l'axe du bien, soit du côté de l'axe du mal. Et on pourrait penser, dans ce cas-là, au Renard pâle de Yannick Enel. On a la description d'un système qui opprime les démunis et sans-papiers, mais là, on a l'impression qu'il y a quand même quelque chose d'assez artificiel. Alors qu'au contraire, il y a d'autres romans qui tentent de s'approprier le réel, en affrontant sa dimension plurielle. Les personnages, dans ce genre de roman, dans ces romans politiques, ils ne sont pas des porte-paroles d'une idéologie, mais ils ont leur part d'irrationalité, de trouble, d'ambiguïté. Il n'y a pas de défense des valeurs, mais au contraire, pour reprendre une formule de Pierre Jourde, une suspension de toutes les valeurs. Ainsi, dans ce second type de roman, la réalité humaine, elle est rendue avec beaucoup plus de vérité. Alors, comme exemple, qui me vient comme ça, on pourrait prendre En guerre de François Bégodeau ou Des châteaux qui brûlent d'Arnaud Bertina. Et pour conclure peut-être cette réponse, en partie, on pourrait prendre cette citation de François Bégodeau qui nous a confié lors de son entretien qu'un romancier doit avoir pour religion la justesse, le réel et sa complexité.
Alors, pour aller dans le sens de la réponse de Pierre, oui, avoir un rôle social et politique, en effet, la littérature donc montre la société telle qu'elle est et cela peut provoquer une prise de conscience, mais peut-être la littérature peut-elle aussi transformer la société ? Dans la partie dossier de Zone Critique, nous avons un article sur les liens entre crise sociale et crise environnementale. Et cet article se construit d'abord autour des constats sur les liens entre ces deux crises. Puis, il traite des utopies, de propositions littéraires, de réponses à la crise. Alors, nous avons deux très beaux textes sur ce sujet. Écotopia d'Ernest Calambar, qui est publié aux éditions Rue de l'Échiquier. Et Bâtir aussi, aux éditions Cambourakis, qui est écrit dans des ateliers d'écriture collective, les ateliers de l'Antémonde. Et ce qui est intéressant dans ces deux propositions littéraires, c'est qu'elles se situent donc après, notamment pour Bâtir aussi, un effondrement du capitalisme. Et les personnages donc sont dans une nécessité de reconstruire le monde et des formes peut-être politiques, sociales, plus justes, un rapport à l'environnement également plus ajusté. Mais en partant de ce qui existe déjà. Et ces deux utopies donc permettent en fait un espace d'imagination comme un test pour rêver d'autres formes de société, et c'est ce que permet la gratuité littéraire, puisqu'il n'y a pas d'exigence de réalisation ou de possible en fait dans ces textes. Ce sont des propositions offertes à notre imagination et qui peut-être pourraient avoir un réel impact politique. J'ajoute que Bâtir aussi donc a été écrit dans des ateliers d'écriture collective. On voit que même dans la construction du texte, il y a du dialogue, il y a des rencontres, il y a de la communauté. Donc c'est aussi une forme politique dans le projet littéraire même.
Alors pour conclure peut-être et poursuivre sur cette question des rapports entre cette nouvelle alliance, donc entre l'esthétique et le politique, on pourrait évoquer également Les Furtifs d'Alain Damasio. Là, on a un cas où le roman, en effet, il peut proposer un contre-récit qui s'opposerait à un discours dominant. Les Furtifs d'Alain Damasio, il est présenté comme un roman de science-fiction et se déroule dans une France pas si lointaine, celle qui se déroule à un horizon 2050, où finalement, le capitalisme aurait été débridé et aurait atteint sa forme absolue, à savoir des multinationales qui remplaceraient les États. Et dans ce contexte-là, naissent, surgissent des communautés qui ressemblent d'ailleurs à s'y méprendre aux ZAD et qui proposent du coup un discours alternatif.
Alors, quittons un peu l'idéologie au sens large du terme pour nous intéresser aux acteurs. Les classes sociales, pour reprendre une terminologie marxiste, la bourgeoisie ou le prolétariat, peuvent-ils être des personnages littéraires ?
En effet, on estime qu'il est important de se poser la question de la façon dont les classes sociales sont représentées dans l'espace romanesque. Dans un premier temps, on peut l'interroger à travers deux principes. D'une part, la légitimité, de l'autre, la vraisemblance. Tout d'abord, la vraisemblance. Alors, l'écrivain, il peut se faire le porte-parole d'une classe sociale qui n'est pas la sienne. Mais alors dans ce cas-là, il faut que sa parole, elle soit vraisemblable, qu'elle s'appuie donc sur des témoignages ou sur une enquête. À ce titre, le projet de François Beaune, Omar et Greg, flirte avec la sociologie en mettant en scène la trajectoire de deux personnages singuliers, mais qu'il construit entièrement à partir de témoignages. D'un autre côté, on aurait la légitimité. Car il s'avère en effet que la parole de certains écrivains, elle semble peut-être plus légitime lorsqu'elle évoque des situations qu'ils ont traversées et dont l'enjeu littéraire permet peut-être de les transcender ou du moins de leur conférer un aspect esthétique très fort. Et je pense notamment dans ce cas-là à Joseph Pontus avec son recueil « À la ligne » qui revient directement sur son expérience de l'usine mais qu'il n'a pas reproduit telle quelle, qu'il a au contraire poétisé.
Pour poursuivre cette réflexion, la question que tu poses nous interroge sur l'incarnation d'une classe sociale à travers des figures types dans la littérature. Or, la littérature a cette capacité à montrer ce qui peut-être excède la définition sociologique d'un personnage. Et du coup, toujours dans les dossiers de la revue, l'article sur l'écriture de la crise en transparence et cynisme fait le constat que dans les écritures contemporaines, il y a souvent la volonté d'avoir l'écriture la plus transparente possible pour avoir l'approche la plus froide, la plus sociologique, peut-être la plus réaliste dans un souci d'objectivité. Donc on retrouve ce type de projet par exemple avec la collection « Raconter la vie » au Seuil, mais je pense à des écrivains comme Édouard Louis, Houellebecq, Annie Ernaux. Sauf que peut-être que ce qui poserait problème ici, c'est que du coup, on a peu d'espace pour le secret, le mystère, les logiques humaines incontrôlables. Et ce serait ce qui, paradoxalement, est précisément la beauté et la force de subversion de la littérature. Ce serait d'inverser les logiques utilitaristes et capitalistes et laisser voir ce qui est humain, à savoir la nuance, le mystère, le secret, l'incontrôlable. Du coup, si je reprends la question, les classes sociales, la bourgeoisie ou le prolétariat peuvent-ils être des personnages littéraires ? Je voudrais demander, doivent-ils être des personnages littéraires ? Et il me semble que pas uniquement. Il faudrait pouvoir avoir à la fois de la matière sociale et à la fois de l'espace intérieur pour montrer en fait la diversité des personnes qui constituent cette société, ne pas avoir des blocs monolithiques qui peuvent du coup devenir stéréotypés. Et certains dispositifs esthétiques me semblent plus à même de rendre compte de cela, de cette complexité. Par exemple, des formes dialogiques. J'ai déjà parlé de Bâtir aussi. Donc, il y a de nombreux dialogues où les personnages échangent, essaient de trouver les meilleures solutions, mais donc on a une multiplicité de points de vue. Et ce dispositif de multiplicité de points de vue, on le retrouve par exemple dans Vernon Subutex de Virginie Despentes, où on accède à la pensée, à la réflexion de personnages qui se situent à tous les degrés de l'échelle sociale et qui peuvent donc porter des réflexions extrêmement différentes.
Alors Marie, tout à l'heure, tu as employé le terme assez joli d'ailleurs de gratuité littéraire. Le capitalisme ne transforme-t-il pas toute chose en marchandise ? Et dans ce cas, l'art et la littérature peuvent-ils y échapper ?
Alors, je vais vous faire une réponse très très humble, puisqu'elle n'engage finalement que notre revue. Mais à notre sens, une des manières d'échapper à la transformation justement de l'objet d'art en marchandise, c'est préserver cette gratuité. Alors, c'est un choix qu'on a fait à Zone Critique. En fait, les membres du comité de rédaction, ils travaillent de façon entièrement bénévole. Ce qui nous laisse, en effet, donc, une entière liberté d'action, ce qui est très précieux. On n'est pas contraint par des nécessités financières. Notre objectif et notre enjeu, c'est pas faire de Zone Critique un objet qui est rentable et qui doit répondre à des normes, mais c'est surtout finalement de prendre du plaisir à le faire. Et c'est ce qu'on essaie de faire.
Alors c'est au moins un point commun que nous avons entre Zone Critique et la revue de la Libre Pensée, La Raison, puisque là aussi les rédacteurs sont bien entendu totalement bénévoles et notre liberté éditoriale est totale. Eh bien écoutez, il nous reste encore à peu près une minute trente que nous pouvons peut-être consacrer à l'avenir de Zone Critique. Si vous avez des projets en particulier, c'est peut-être une bonne façon de conclure cette émission.
Alors oui, nous avons un projet de nouvelle revue, donc le numéro 2, qui devrait paraître en décembre 2020. Et le thème serait l'aventure, ce qui nous semble être un heureux contrepoint au thème de la crise sociale. Puisque la littérature nous fait connaître la société, elle nous permet aussi de nous évader de ce monde ou de nous faire accéder à d'autres mondes. Par ailleurs, ce thème a été discuté pendant le confinement. Nous sommes demandés si il fallait réfléchir à d'autres thèmes d'actualité forte, la question de la maladie, de l'enfermement. Mais il nous a semblé qu'il fallait rendre à la littérature sa capacité à ouvrir des espaces. Et donc, nous espérons que ce numéro sur l'aventure permettra aussi de belles échappées.
Alors, merci beaucoup pour cette émission de rentrée. J'ai pris beaucoup de plaisir à découvrir Zone Critique et à lire le premier numéro. Je ne doute pas un instant que je prendrai autant de plaisir avec le numéro 2 sur l'aventure. Je remercie Perret Legras à la réalisation, Pierrick Charles à la technique et la collaboration de Claire Poinsignon. L'émission du mois prochain sera consacrée à Octave Mirbeau. Nous resterons donc toujours dans le thème de la littérature. Merci, bon dimanche.